Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir à la une, cette voix, celle d'une légende du cinéma français.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Jean-Louis Trintignant, avec Anouk Aimée dans Un homme et une femme, l'acteur nous a quittés paisiblement à l'âge de 91 ans. On l'a appris il y a une heure maintenant. Nous allons évidemment nous souvenir de son immense carrière. Vous entendrez dans RTL Soir l'émotion d'Emmanuel Macron, celle de son complice Claude Lelouch. C'est une page du cinéma français qui se tourne et on va y revenir dès le début de votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
L'autre titre, c'est cette chaleur assommante.
Ah oui, nous étouffons. 40 degrés dépassés dans plusieurs régions, du jamais vu pour une mi-juin en métropole. 70 départements en alerte. Le thermomètre s'affole. Et on va le scruter tout au long de l'émission.
Avec vous, Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir
encore
à tous.
Encore des températures brûlantes recueillies cet après-midi.
En effet, de nombreux records mensuels ont déjà été battus cet après-midi, que ce soit en Bretagne, dans les Charentes ou encore dans l'Aude. Par exemple, il a fait 34,9 degrés à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, ou encore 40 degrés à Carcassonne. 40 degrés qui fleurissent encore dans le sud-ouest, mais il faudra attendre encore quelques heures pour des résultats définitifs, car les journées sont les plus longues proches du solstice, donc cette nuit s'annonce éprouvante avec le mercure qui ne baissera pas en dessous des 22 degrés sur les trois quarts du pays, et demain s'annonce encore plus compliqué avec des pointes à plus de 40 degrés qui vont se généraliser. Donc il faudra tenir bon jusqu'à dimanche et lundi avec l'arrivée des premiers orages.
Alors vivons-nous en ce moment un avant-goût de notre futur? On va s'interroger avec vous au 3210 et avec nos invités à 18h15, le photographe engagé Yann Arthus Bertrand et le spécialiste du climat Davide Faranda.
À suivre aussi, document RTL Ferrero qui tente de rassurer sur la réouverture de son usine belge où des lots de Kinder avaient été contaminés à la salmonelle. Et puis cadeau de Noël en Ligue 1, des matchs de foot pendant les fêtes, calendrier du championnat de foot forcément adapté au Mondial en novembre prochain au Qatar.
À 18h40, on va refaire nos régions comme chaque vendredi, 20 minutes près de chez vous, positive.
Avec la solution miracle contre les déserts médicaux dans le Limousin, avec la guerre des terrasses à Strasbourg, le café de 9h du matin y est illégal, vous l'entendrez. Et puis on dégustera une délicieuse bouillabaisse, une vraie, à Marseille.
À 19h15, ils refont la France. Amandine Bégou et ses complices de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le menu?
On va revenir bien sûr sur la visite d'Emmanuel Macron à Kiev. Qu'en a-t-on dit à l'étranger? Et puis on parlera du bac. Est-ce qu'on est le seul pays où on passe une épreuve de philo, par exemple?
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
Et c'est donc un nom mythique du cinéma français qui vient de s'éteindre. Jean-Louis Trintignant est mort aujourd'hui à l'âge de 91 ans.
Chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir.
C'est un géant du théâtre et du cinéma qui vient donc de s'éteindre.
Oui, Jean-Louis Trintignant, c'est le comédien aux 120 films. Il préférait le théâtre. Il a pourtant offert au cinéma quelques-unes de ses plus belles pages. Une carrière qui débute en 1956. Jean-Louis Trintignant est un jeune homme gauche, timide, de 26 ans. Il débute au cinéma et son destin va basculer sur une plage de Saint-Tropez, devant et derrière la caméra de Roger Vadim, aux côtés de Brigitte Bardot. C'est « Et Dieu écrit la femme ».
Juliette, je veux pas que tu retournes là-bas.
Moi non plus, Michel. Je veux pas y penser, mais je sais que ça sera terrible.
Je voudrais tellement que tu sois ma femme.
1966, l'armée l'a éloigné des plateaux. Claude Lelouch va le remettre sous les projecteurs, dans « Un homme et une femme », en coureur automobile amoureux d'Anouk Aimée.
Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers 6h30, elle va être couchée, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans un bistrot, j'appelle d'un bistrot. Une femme qui vous écrit sur un télégramme, je vous aime.
1975, physique et voix inquiétant. Il est un implacable criminel en fuite face à Alain Delon dans Flic Story de Jacques Deray.
Ton percepteur,
Jeannot étudie la question.
Il est qui se manie un peu le cul parce que je commence à me faire chier comme un rat mort ici. Et il est temps que je quitte la France. Tu m'as apporté le journal?
Putain, qui me le file un peu le gouvernement, je te leur ferai passer le goût des grèves à ces fromages.
1983, premier film avec François Truffaut, le dernier du réalisateur, bientôt emporté par la maladie, dans Vivement Dimanche. Il est l'agent immobilier accusé de meurtre dont s'éprend sa secrétaire Fanny Ardant.
Ce matin, vous me renvoyez, ce soir, vous me confiez la boutique.
Écoutez, Barbara, je suis dans l'embarras. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de m'aider.
1994, le temps des seconds rôles, mais certains en valent des principaux. Trois couleurs rouges du polonais Kieslowski en juge d'instruction, retraité, torturé. 2012 enfin, l'ultime chef-d'œuvre, Palme d'or à Cannes et César du meilleur comédien pour le crépusculaire, mais si grand amour de Michael Haneke.
Pourquoi tu n'as pas réagi?
À quoi?
À quoi? Bah, tout, à moi.
Quand ça?
Là, à l'instant. J'ai pris ce torchon, je te l'ai posé sur le visage, tu n'as pas réagi.
Je ne comprends pas.
Formidable film, ce Amour de Michael Haneke. Jean-Louis Trintignant, Laurent, c'est aussi évidemment une vie marquée par un drame.
Oui, en 2003, la mort de sa fille Marie, tuée par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. « Je suis mort le 1er août 2003 », avait dit Jean-Louis Trintignant. Il avait évoqué ce drame ici même sur RTL. C'était en 2012 dans « Laissez-vous tenter ».
Il faut parler de la mort, mais pas d'une façon accablée, au contraire. Moi, je me suis appliqué à ne jamais dramatiser. C'est quand même un des problèmes essentiels de la vie. Les deux grands moments, ce sont la naissance et la mort.
Jean-Louis Trintignant sur RTL en 2012, quand il évoquait la mort de sa fille Marie. Réaction ce soir après l'annonce de la mort de Jean-Louis Trintignant d'Emmanuel Macron. C'était il y a quelques minutes.
Pour dire d'abord l'émotion qui est la nôtre et l'attachement qu'on a vu. Voilà, cette formidable figure à ce talent. Il a accompagné un peu nos vies à travers le cinéma français et c'est une page qui se tourne d'un formidable talent artistique, d'une voix aussi douce, d'un profil qui a parcouru le cinéma français de ces dernières décennies. J'aurai l'occasion d'y revenir.
L'hommage d'Emmanuel Macron à Jean-Louis Trintignant avec William Galibert il y a quelques minutes pour RTL. Autre hommage tout à l'heure dans Laissez-vous tenter dernière. Dans une petite demi-heure, vous entendrez l'émotion de Claude Lelouch, l'un des complices de Jean-Louis Trintignant. Il s'est confié à RTL.
RTL Soir.
18h06. L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est la chaleur. Et attention, RTL a sorti les grands moyens. C'est thermomètre à la main que nos reporters se baladent un peu partout en France aujourd'hui.
Oui, dans RTL Midi, Patrick Tégéraud à Toulouse nous le racontait. Un 14 degrés de différence entre une place minérale et une place végétalisée. Julie Brault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez, vous, mené la même expérience à Paris?
Oui, thermomètre en main, je suis d'abord allée aux Tuileries, en plein soleil, la température aussi entre 39 et 40 degrés. Alors comme beaucoup, Anaïs s'est rapprochée d'une fontaine pour trouver un peu de fraîcheur.
Nous on n'en peut plus, on vient de Bretagne, il n'y a pas de vent. Donc on cherche désespérément de l'ombre, de la fraîcheur. Tous les coins d'ombre sont prisés. Moi je suis arrivée en début de semaine là pour le boulot et c'est vrai qu'une semaine de chaleur intense, ça peine, on tire la langue.
Alors même à l'ombre, on va vous dire que j'avais très chaud dans direction le bois de Boulogne où mon thermomètre chute à 32 degrés, 8 de moins qu'en plein Paris donc. Et j'étais pas la seule à avoir eu l'idée. Hein. Karim lui a passé toute sa journée ici avec son chien.
Là c'est plus agréable de s'abriter sous un arbre et d'avoir les pieds dans l'eau puisqu'il y a des petits ruisseaux comme ça, très agréable.
Demain il prévoit encore plus chaud, est-ce que peut-être vous allez refaire un tour en forêt?
Alors moi c'est sûr, moi j'habite au 6e étage sous les toits, alors vous imaginez la chaleur qu'il fait. On est largement mieux en forêt, largement, il n'y a pas photo, vivement que ça dure, qu'on puisse préserver cette nature.
Et comme Karim, tous ceux que j'ai croisés ont prévu de s'abriter sous les arbres demain pour supporter les très fortes chaleurs annoncées.
Ouais, expérience simple mais très parlante, hein, signée Julie Brault pour RTL Paris, où la chaleur est telle qu'un collège du 12e arrondissement a dû être évacué cet après-midi. Il faisait plus de 30 degrés hein, dans les classes.
Hein. Paris et sa couronne, où la circulation différenciée sera mise en place à partir de demain. Seules les voitures avec des vignettes critères 0, 1 et 2 pourront circuler.
Cet après-midi, l'alerte canicule a donc été étendue. Les deux tiers du pays désormais sont concernés. En fait, seuls résistent les départements alpins et ceux situés le long de la Manche et de la Méditerranée.
Alors au total, 56 départements en alerte orange, 14 désormais en alerte rouge, le long du littoral atlantique, de la Vendée au Pays Basque et jusque dans les terres, Tarn, Haute-Garonne, Vienne plus au nord.
Cette zone rouge qui vire même au noir dans les Landes. Pour ce qui est du risque que fait peser cette chaleur sur le bétail, risque mortel demain pour les bovins selon les prévision du cabinet spécialisé ITK dans sa ferme donc et dans ses champs. Laurent Duclavé qui élève 120 vaches près de Mont-de-Marsan est aux aguets.
On les met dans des zones les plus fraîches possibles, les plus ombragées possibles, avec des haies, des bosquets, à l'intérieur de bâtiments ventilés. Souvent l'alimentation sur ces périodes-là est moins importante. On s'assure également d'un abreuvement, on a des sites d'abreuvement pour les animaux qui sont multipliés. Pour la question de se protéger contre les insectes, les animaux ont tendance à rester en plein soleil. On intervient pour repousser les animaux sur des zones ombragées afin qu'elles ne soient pas exposées à des températures trop élevées.
L'éleveur Laurent Duclavé avait joint pour RTL par Guillemette Franquet. Avec cette chaleur hein, chez nos voisins espagnols, des milliers d'hectares de forêts ont déjà brûlé, plusieurs incendies toujours actifs, l'un notamment a contraint à l'évacuation de plus de 3000 personnes du parc d'attractions du Puy du Fou espagnol.
Votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec Ferrero qui promet d'être irréprochable. Promesse en exclusivité sur RTL après l'annonce de la réouverture de l'usine belge où des lots de Kinder ont été contaminés. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h11, RTL Soir, toujours à vos côtés, votre journal continue. Nous avons tout fait pour que cette histoire ne se reproduise plus. L'engagement dans RTL Midi en exclusivité du groupe Ferrero après la contamination de différents lots de Kinder à la salmonelle.
Dans son usine belge d'Arlon, un site autorisé désormais à rouvrir 2 mois après sa fermeture et après un nettoyage total, comme l'a expliqué Anne Edwards, directrice des affaires extérieures de Ferrero à Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Tout a été désinfecté et nous avons eu 1000 personnes qui ont travaillé en permanence ces 2 derniers mois, 7 jours sur 7, pour vraiment mettre tout en ordre. Donc, nous avons vraiment tout fait et c'est très important parce qu'évidemment, ce qui s'est produit, c'est extrêmement grave et c'est quelque chose dont nous tenons encore une fois à vraiment nous excuser très profondément.
Les autorités belges vous donnent leur feu vert pour la reprise de la production, mais sous condition, ça veut dire quoi? Que chaque Exactement. Lot va être contrôlé?
Oui, en fait, ça veut dire que durant 3 mois, chaque lot vont tous être testés. Et c'est uniquement si les résultats des tests sont bonnes que les produits peuvent quitter l'usine. On fera vraiment tout pour que tout soit complètement en ordre et irréprochable dans le futur.
La directrice des affaires extérieures de Ferrero qui tente donc de rassurer sur RTL sur cette réouverture. Réouverture jugée prématurée par l'avocat de 2 familles de victimes, Maître Richard Legrand.
Il faut rester extrêmement prudent. Moi, j'estime que la rouverture est quand même un peu anticipée. Il y a quand même des zones d'ombre sur les causes et l'origine de la contamination. Rien n'est totalement acté. Hein. Qu'on en arrive à des contaminations comme celle-ci, il faut quand même qu'il y ait des failles importantes dans la phase de production. La réouverture est inquiétante. D'ailleurs, le fait que ça soit dans une période test de 3 mois, on est la preuve. Si tout était bon, il y aurait une réouverture définitive. On va voir si les mesures qui seront prises suffiront pour que la production reprenne définitivement. Mais rien n'est sûr.
Maître Richard Legrand, joint pour RTL par Odile Pouget.
Et puis le calendrier désormais fixé de la Ligue 1 pour la saison prochaine, reprise du championnat de France de foot le 7 août prochain. Et puis un calendrier qui sera forcément impacté par la Coupe du Monde au Qatar qui se déroulera en novembre. Du coup, les joueurs français joueront, c'est inhabituel, au mois de décembre, des matchs prévus les 28 décembre et même le dimanche 1er janvier.
Merci Marion, à tout à l'heure. On revient à cette chaleur extrême, Claire. On a donc encore battu des records aujourd'hui et vous nous dites que ce sera pire demain et très compliqué cette nuit.
Exactement, la nuit s'annonce torride au sens littéral du terme puisqu'à minuit, eh bien par exemple, il fera 30 degrés à Cognac ou encore 30 degrés à Paris, 27 degrés à Agen ou encore 29 degrés à Albi. Donc vous comprenez que ce sont quelques exemples mais que ce sera généralisé sur les 3/4 du pays. Et donc à l'aube, malgré la perte de quelques degrés, on ne s'abaissera pas en dessous des 22 degrés. On aura par exemple le lever du jour 25 degrés à Toulouse, 23 degrés à Cognac ou encore 22 degrés, que ce soit à Montélimar, là encore à Paris, à Nantes ou encore au. Donc une nuit certes très dégagée, très ensoleillée pour la journée qui s'annonce, un peu voilée sur la façade ouest mais également très très chaude. En effet, entre 35 et 40 degrés sur les 3/4 du pays avec des pointes à plus de 40 voire 42 degrés sur la façade ouest. Donc si vous voulez passer une nuit à peu près tranquille, vous rafraîchir, un conseil, vous prenez un vaporisateur, vous mettez de l'eau fraîche avec quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus ou encore de menthe et vous vaporisez justement les draps. Ils seront bien humides et ça vous permettra justement d'un peu récupérer quand même.
On va essayer de respirer dans les heures à venir avec cette météo brûlante qui interroge. Vivons-nous un avant-goût de notre futur? Le dérèglement climatique est-il en train de devenir concret? Dans un instant, vos témoignages de travailleurs au 3210 et puis vous allez échanger avec Yann Arthus-Bertrand et David Efaranda, chercheur spécialiste du climat. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h18, bonne fin de journée avec RTL Soir et surtout bon courage. RTL vous accompagne dans cette fournaise, on vous conseille, on s'interroge aussi. Les 40 degrés sont dépassés dans certaines régions, c'est du jamais vu. Une mi-juin en métropole, la France suffoque et ce n'est peut-être qu'un avant-goût. On va en discuter avec vos témoignages au 3210 et avec nos invités. Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur, président de la fondation Good Planet, bonsoir.
Bonsoir.
Et David Efaranda, chercheur au CNRS, spécialiste des changements climatiques. Bonsoir.
Bonsoir.
David Efaranda, cette canicule, je parlais d'avant-goût. C'est un avant-goût de notre avenir. C'est ce qui nous attend, des vagues de chaleur plus précoces, plus sévères, plus régulières. On est en train de voir le dérèglement climatique à l'œuvre un petit peu partout en France ce soir.
Oui, on peut dire que oui. Et c'est tout à fait une des conclusions du dernier rapport du GIEC qui nous dit que déjà dans le climat actuel, qu'on le rappelle, c'est 1,2 degrés plus chaud qu'il y a un climat sans émission de gaz, de CO2 anthropique. On a 5 fois plus de probabilité d'observer des vagues de chaleur que dans le climat sans émission de gaz.
Ça veut dire que d'après le rapport du GIEC, par exemple, là, par exemple, on a, d'après eux, une chance sur 10 d'avoir une telle canicule au mois de juin. Et les experts nous disent, une canicule en juin, si on continue sur cette trajectoire, en 2050, ce sera un mois de juin sur deux. C'est ça qui nous attend ?
Oui, tout à fait. Après, on a des leviers pour changer de trajectoire. On le sait très bien, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a des scénarios qui sont à la fois économiques et d'adaptation et aussi sociale qui nous permettront de réduire les émissions si on veut. Donc il faut faire les efforts tous ensemble.
Yann Arthus-Bertrand, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on attend un chercheur comme David Efaranda, l'argument que certains répètent à chaque canicule du type « mais il a déjà fait très chaud dans le passé, souvenez-vous 1976 », ça ne tient plus, ça n'est plus entendable aujourd'hui.
Vous savez que le premier rapport du GIEC, il date de 1990. Déjà, il disait que le réchauffement, certainement, c'était probable, était dû à les activités humaines. Aujourd'hui, sans équivoque, le dernier rapport du GIEC dit que c'est la faute de notre civilisation humaine, la façon dont nous vivons. Vous savez, moi, j'ai 76 ans. On parle beaucoup du rapport du GIEC, du changement climatique depuis depuis 15 ans, depuis le film d'Al Gore qui a vraiment été le déclencheur de changement climatique. Mais je ne pensais pas que dans ma vie d'homme, je verrais de mes yeux le changement climatique. Et aujourd'hui, on le sent. Et je le dis pas avec émotion. C'est vraiment aujourd'hui, il faut qu'on dépasse les frontières générationnelles ou géographiques de se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble, comment on va y arriver. Et il y aura pas de retour en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est le climat qu'on a eu cette année ne reviendra jamais. On a perdu le climat sur lequel s'est assise notre civilisation pendant les 10 000 dernières années. Et il faut le savoir. Et donc, il faut vraiment qu'on prépare cette adaptation.
Alors, il faut s'adapter. Il y a des leviers aussi. On va y revenir. Je voudrais vous faire écouter des témoignages d'auditeurs parce qu'ils sont très marquants, parce qu'eux aussi, ils ont vécu, comme vous le dites, Yann Arthus-Bertrand, ce dérèglement climatique de manière très concrète ces dernières heures. Écoutez le témoignage d'un agriculteur. Il s'appelle Mathieu. Il nous a appelé au 3210 depuis l'Aisne. On n'est pas dans le Gard, on n'est pas dans le Var, on est dans l'Aisne, dans le nord du pays, et il est peut-être en train de tout perdre, cet agriculteur. Écoutez-le.
Donc là, ça commence à devenir très compliqué pour les cultures. Et là, clairement, j'avais des tournesols qui ont germé il y a 3 semaines, qui ont déjà vécu une période de chaleur assez extrême il y a 15 jours. On a eu un petit peu de pluie, donc la plante se maintient. Mais là, j'ai bien peur que le nouvel épisode qui arrive soit vraiment dévastateur et qu'on n'ait pas de culture à terme, quoi. Donc ça représente quand même potentiellement, sur mon exploitation, 20 hectares. On va être à peu près à 2000 euros de produits à l'hectare. Donc vous voyez, ça fait quand même un temps quand même très, très conséquente perte.
Le témoignage de Mathieu dans l'Aisne, donc dans le nord du pays. Est-ce qu'on va devoir changer d'agriculteur ? On parlait du choc thermique, même pour les bêtes, avec un risque de mort, parce qu'il va faire plus de 40 degrés dans les Landes demain pour le bétail. On a une sécheresse qui arrive de plus en plus tôt. Est-ce qu'il va falloir s'adapter en termes d'agriculture ? Je vous pose la question à tous les deux.
Oui, sûrement. Je pense que l'agriculture et la végétation souffrent plus que nous, les êtres humains, parce qu'on a quand même une capacité d'adaptation extraordinaire. Et donc, ce n'est pas le cas de plusieurs espèces, à la fois des végétaux et des animaux, qui, en fait, eux, ils sont très sensibles à quelques degrés.
Ça veut dire qu'il va falloir changer de production, par exemple, dans certaines régions, Yann Arthus-Bertrand ?
Vous savez, il faut savoir que les énergies fossiles ont transformé notre vie complètement dans l'agriculture. Imaginez que si on se parlait en 1850, pas à la radio, 2 personnes sur 3 en France travailleraient dans les champs. 2 personnes sur 3. Aujourd'hui, ça doit être 1%. Aujourd'hui, un paysan, écoutez bien ça, il produit 500 fois plus grâce aux engrais, aux énergies fossiles et aux graines modifiées. Donc il y a une surproduction incroyable, que ce soit sur la façon d'élever des animaux ou d'une céréale. Il va falloir qu'on revienne à une agriculture beaucoup plus raisonnable, qui abîme abîme beaucoup moins les sols et sur des circuits courts. Aujourd'hui, vous avez bien compris que notre vie... Le problème, c'est que notre religion de la croissance, de tyrannie de la croissance, ne marche qu'avec les énergies fossiles. Il ne peut pas avoir de croissance sans énergie fossile. Donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre autrement. C'est tout l'énorme chantier que devant nous. Je pense qu'aujourd'hui, avec la canicule qui est en train d'arriver, sans doute que les politiques auront peut-être le mandat de leurs électeurs pour changer les choses. Aujourd'hui, le politique, il n'a pas le mandat des électeurs pour changer les choses. Et c'est un énorme chantier à mettre en avant. On ne va pas vous faire le manuel scolaire de tout ce qu'on doit faire pour essayer de vivre d'une façon plus vertueuse. Ouais. Mais c'est un énorme changement et on est tous responsables de nos actes aujourd'hui. Oh. Et je passe mon temps à dire agir rend heureux. Tout ce que vous faites quotidiennement, personnellement, pour essayer de décarboner votre vie, c'est important. Et c'est tout simplement, quand il y a une marche pour le climat, on est 35 000. 35 000, c'est pas beaucoup. Quand il y a la marche contre le pass sanitaire, on est 200 000 personnes. Mmh. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Quand on sera 2 millions dans la rue à marcher pour le climat, non pas à marcher pour le climat, à marcher pour la vie des gens qu'on aime, nos enfants, nos petits-enfants, là, les hommes politiques sentiront qu'ils ont le mandat, tous ensemble, pour changer les choses.
C'est vrai qu'on a eu les chiffres des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont tombés cette semaine. Moins 4%, c'est très peu depuis 2019, c'est l'année de référence avant Covid. L'Europe vient d'interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035. Ça veut dire qu'il va falloir attendre 2040, 2045 peut-être, Yann Arthus-Bertrand, pour voir un effet sur les émissions de gaz à effet de serre ?
Je peux pas vous répondre à cette question. Je sais que normalement l'accord de Paris c'est 43% en 2050 qu'on doit réduire. 43%. Et chaque année on émet en France 1% de plus. Donc on fait complètement le contraire. Voilà. Il suffirait de réduire de 5% notre consommation d'énergie fossile chaque année pour peut-être essayer de réduire, enfin d'être vertueux. Vous savez, il n'y a pas un seul pays qui a respecté les accords de Paris qui ont été signés par 160 pays. Pas un pays l'a respecté. Vous imaginez ça? Voilà, on est dans un monde, on vit dans un déni collectif, on compte cette espèce de, je répète, la tyrannie de la croissance continue à nous faire dépenser les énergies fossiles et on ne sait pas comment arrêter la machine.
Je voudrais juste
le pouvoir d'achat et les emplois.
À tous les deux, un autre témoignage d'auditeur qui nous a laissé un message au 3210. Il travaille en ville et il vit l'enfer. Il s'appelle Bruno, il est serveur place du Capitole à Toulouse. Écoutez-le.
Effectivement, c'est dur à travailler sur les terrasses avec la chaleur parce qu'il fait très chaud. Donc on a la chance d'avoir un petit peu des brumisateurs, mais bon, ça suffit pas par rapport au monde, quoi, on va dire. On porte les plateaux, donc oui, c'est un peu... Du coup, avec la chaleur, c'est plus épuisant, quoi. On transpire beaucoup plus, on est plus fatigué, on est moins attentif.
Bruno, qui passe une sale journée du côté de la place du Capitole à Toulouse. Pourquoi il est important son témoignage à Bruno au 3210 ? Parce que RTL s'est promené avec un thermomètre aujourd'hui dans cette ville de Toulouse. Et entre la place du Capitole, qui est très minérale, et à 400 mètres de là, une autre place toute verte, arborée, il y avait à midi, écoutez bien, plus de 10 degrés de différence de température. Est-ce qu'il y a urgence à végétaliser nos villes, à les penser autrement ? David et Faranda.
Bah oui, mais on a aussi beaucoup d'études dans ce sens au CNRS avec les collègues qui sont climatologues des villes urbaines. Et sûrement, déjà, ça, c'est un levier d'action qu'on peut faire. Végétaliser les villes, réduire les trafics véhiculaires. C'est des petites actions, mais qui ne vont pas juste réduire les émissions, ils vont améliorer la qualité de la vie. Ouais. Et ils vont aussi nous donner un sens qu'on est en train de rendre notre monde plus vivable. Et ils vont avoir aussi des impacts énormes sur la santé.
C'est important ce que vous dites, parce que vous dites réduire le trafic. Mais on sent bien qu'à chaque fois qu'on veut réduire le trafic dans une ville, il y a une levée de bouclier. Donc en même temps, on se plaint du réchauffement climatique et en même temps, on a du mal à faire les efforts.
Oui, alors là, j'enlève ma casquette des scientifiques et je mets la casquette des citoyens. Oui, les efforts, on les fait. On ne peut pas juste demander des efforts aussi à la partie de la population qui a moins d'argent, qui a peut-être des voitures un peu plus anciennes. En fait, quand on parle des sobriétés, ça doit être un effort commun. Et donc, on doit mettre de l'argent pour le faire. Et cet argent, dans la mobilité, il va devoir être investi sur les transports publics. Sûrement, on a des alternatives. Pas juste en Île-de-France, mais ce serait bien qu'on réfléchisse à une mobilité urbaine plus libre du trafic véhiculaire aussi dans d'autres villes de France.
Merci David Efaranda, chercheur au CNRS. Merci à vous Yann Arthus-Bertrand.
Alors je voulais vous dire aussi que vous pouvez aller ce week-end à la Fondation Good Planet, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, et on vous parlera d'une écologie humaniste. Et vous êtes plein de bienveillance, de gentillesse, avec 350 bénévoles.
Vous donnez l'adresse à nos auditeurs ?
Ouais, c'est dans le bois de Boulogne, c'est en face de la Grande Cascade, c'est dans la fondation Good Planet, je vous conseille d'y aller. Et c'est, ça peut changer un petit peu votre vie.
Voilà. Merci, merci Bertrand, merci David et Faranda, et merci également à Mathieu et Bruno pour leurs appels aujourd'hui au 3210 en pleine canicule ce soir sur RTL. Dans un instant, là aussi c'est brûlant, les dessous de l'actu dans RTL Soir, les derniers sondages, dernier rapport de force à deux jours du second tour des législatives, et puis laissez-vous tenter dernière l'hommage de Claude Lelouch à Jean-Louis Trintignant qui nous a quittés aujourd'hui. À tout de suite sur RTL.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
RTL Soir à vos côtés, 18h32.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous nous rejoignez, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actu.
Il a accompagné un peu nos vies à travers le cinéma français. L'hommage d'Emmanuel Macron à Jean-Louis Trintignant, l'acteur qui a tourné avec Lelouch, Costa Gavras ou Anouk que s'est éteint à l'âge de 91 ans. De nouveaux records de température établis ce vendredi pour un mois de juin. Au moins une dizaine de communes ont vu le thermomètre atteindre des niveaux inédits, hein, Claire Delorme.
Exactement, et ce n'est qu'un début, donc des records mensuels, mais qui vont évoluer puisque les journées sont très longues avec le solstice d'été qui approche, donc forcément... ça restera à déterminer. En attendant, déjà, quelques records battus à 17h. C'est le cas à Carcassonne, par exemple, avec 40,4 degrés, ou encore à Narbonne avec 38,8 degrés. Encore plus significatif, la Bretagne, à Dinard, par exemple, où il a fait 35,5 degrés cet après-midi.
Ils ne sont pas habitués, les Bretons. Au total, 70 départements en alerte, dont 14 en vigilance rouge, parce que les températures, elles ne vont pas redescendre tout de suite. Hein.
En effet, c'est un euphémisme, puisque demain, dans l'après-midi, on attend encore dans le sud-ouest des pointes à plus de 41 degrés, voire plus localement. Et de manière généralisée, entre 35 à 39 degrés.
Merci Claire, merci Marion.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Les dessous maintenant du second tour des élections législatives. Règles, enjeux, rapports de force. RTL vous résume tout, vous aide à y voir plus clair avant la fin de la campagne. Tout à l'heure à minuit et à deux jours du vote. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Déjà le rapport de force, les sondages se sont affinés au cours de la semaine. On en est où?
Eh bien selon notre partenaire Harris Interactive Toluna, ce soir c'est la majorité présidentielle qui devrait arriver en tête dimanche soir. Entre 267 et 307 sièges à l'Assemblée pour La République En Marche, le Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, pas vraiment assuré donc d'obtenir la majorité absolue. Juste derrière la NUP, l'Union de la Gauche, totaliserait entre 161 et 208 sièges. Le troisième pôle serait la droite, les Républicains qui sauveraient un peu plus d'une cinquantaine de sièges. Enfin, le RN, quant à lui, aurait pour la première fois un groupe avec au minimum 25 élus.
Je vous cite, majorité absolue. Et c'est vrai que c'est une expression qu'on entend beaucoup en ce moment. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, c'est un palier, Julien. C'est un nombre de députés, 289, en dessous duquel la principale coalition ne doit pas descendre si elle ne veut pas être obligée de négocier sur chaque texte. Concrètement, si ensemble la majorité présidentielle ne dispose pas de cette majorité absolue, là ce sera un sacré programme, ça risque d'être agité à l'Assemblée. Le gouvernement sera contraint de s'appuyer sur quelques élus de droite ou de gauche pour faire passer des réformes. Ça peut prendre plus de temps, menacer certains textes, et c'est pas un détail parce que je peux vous dire que chez les Républicains, on entend bien faire pencher la balance un peu plus à droite sur la réforme des retraites par exemple.
Vous parlez de l'opposition, dites-nous, plus un groupe parlementaire compte de députés, plus il pèse?
Exactement. Plus vous avez d'élus dans un groupe, plus vous posez de questions au gouvernement le mardi après-midi, plus vous avez de temps de parole dans l'hémicycle, et c'est pas négligeable. Et si vous avez 58 députés, vous pouvez même provoquer un vote de défiance envers le gouvernement. Avec 185 députés, vous pouvez engager l'organisation d'un référendum, par exemple. Et puis, bien sûr, plus il y a de députés, plus il y a d'argent pour un parti politique.
Les dessous de ce second tour des élections législatives. Fin de campagne, minuit, ouverture des bureaux de vote, 8h dimanche. Merci beaucoup Thomas Després.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter dernière.
Laissez-vous tenter dernière, évidemment spécial et hommage ce soir à Jean-Louis Trintignant. On l'évoquait il y a quelques minutes dans le journal de 18h. L'acteur, la légende du cinéma français nous a quittés à l'âge de 91 ans. Bonsoir Steven Bellery.
Bonsoir à tous.
Vous avez recueilli la réaction, l'émotion d'un de ses grands complices.
Oui, celle de Claude Lelouch. Jean-Louis Trintignant a tourné pendant 63 années, 50 ans aux côtés de Claude Lelouch. C'est le réalisateur avec lequel il a le plus tourné, notamment évidemment Un homme et une femme, Palme d'or à Cannes en 1966. Ce soir, Claude Lelouch rend hommage à celui qui lui a offert une overdose de rêve, selon ses mots.
C'est le premier acteur qui m'a dit oui. J'ai tourné 7 films avec lui et 7 fois, il m'a offert son talent. Parmi les plus grands, c'était un des plus grands et il avait incontestablement la plus belle voix qu'on ait jamais entendue au cinéma et au théâtre. Il parlait pas, il chantait, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que dès qu'il disait un mot, on écoutait. On était fascinés, hypnotisés. Il rendait les choses crédibles. Je veux dire que dès qu'il interprétait un rôle, on y croyait, il était dans la vérité. Voilà, et puis ce qu'il a partagé avec nous, ses souffrances. Il nous a fait cadeau de ses cicatrices, il nous a fait cadeau de les moments cruels qu'il a traversés, et il a transformé tout ça dans son jeu. Voilà. Non, c'est un homme remarquable. C'était plus qu'un artiste. Tout à l'heure, j'ai appelé Anouk Aimée, et puis on s'est consolés ensemble.
Un homme et une femme, ça va rester vraiment le plus grand et le plus beau souvenir de votre carrière avec lui?
En tous les cas, c'est notre plus grand succès à tous les deux, quoi. Un homme et une femme a changé la vie de tous ceux qui l'ont fait. Et je sais que Jean-Louis était très fier de ce film. Avec Anouk Aimée, ils vont rester comme une sorte de couple mythique.
Vous l'avez fait tourner sur plusieurs décennies, encore en 2019, dans les plus belles années d'une vie.
J'ai eu la chance de lui faire faire son dernier film.
Est-ce que son jeu a grandi avec le temps?
C'était quelqu'un qui doutait de tout. Et quand on est dans le doute, on fait des progrès constants.
Lors de votre dernier tournage ensemble, il combattait déjà son cancer. Il puisait où son énergie? Qu'est-ce qu'il faisait vibrer?
Je pense la poésie. La poésie a été son médicament principal. Quand il s'est emparé des plus beaux textes du monde, il avait le sentiment d'être encore très très utile.
Pour terminer, quel homme il était, Jean-Louis Trintignant, quand les caméras étaient éteintes?
Plutôt pessimiste. C'est ce qu'il aimait chez moi, c'est mon côté positif. Jean-Louis restera pour moi sûrement mon plus beau souvenir. En tous les cas, je lui dois tout et il m'a ouvert toutes les portes. Pour un metteur en scène, c'est le plus beau des Oscars.
L'émotion de Claude Lelouch après la disparition de Jean-Louis Trintignant aujourd'hui à l'âge de 91 ans, témoignage RTL que vous avez recueilli. Stephen Bellery, merci beaucoup. On reviendra sur la disparition de ce nom mythique du cinéma français, bien entendu, tout à l'heure dans le journal de 19h. Pour l'heure, on va refaire nos régions dans quelques instants dans RTL Soir, les 20 minutes sympas près de chez vous comme chaque vendredi. On va parler déserts médicaux, café illégal à Strasbourg, bouillabaisse à Marseille et on va même passer un coup de fil en Jamaïque. À tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.